Bonjour, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Le chemin vers la longévité est semé de mille embûches. Quand on est un adulte en bonne santé, nul n'est à l'abri de la fatalité. Maladies de toutes sortes, accidents de la circulation, chutes d'escalier, pots de fleurs qui vous tombent sur la tête, bretzel avalé de travers. Et quand on est hélas en mauvaise santé, la longévité peut sembler chimérique, un rêve inaccessible, sans compter également les mauvais coups du sort, pots de fleurs, bretzel, etc. Un éminent chercheur américain affirme qu'il est possible de rester jeune le plus longtemps possible, en bonne santé, à condition de changer durablement ses habitudes alimentaires et son mode de vie. Ce chercheur, c'est Walter Longo, notre invité ce matin, et il va nous expliquer comment fonctionne ce régime de la longévité. Je vous vois lever les yeux au ciel, il ne s'agit pas d'un énième régime farfelu qui deviendra caduque l'année prochaine, mais le fruit de plus de 30 ans de recherche à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles et d'une enquête très poussée auprès de centenaires qui vivent en bonne santé dans quelques zones de la planète. Comment est-il possible de vivre plus longtemps, de régénérer ses cellules, de faire régresser certaines maladies chroniques en adoptant une alimentation particulière? Sur quelles preuves scientifiques repose ce régime de la longévité? Et surtout, comment l'adopter au quotidien? Le professeur Walter Longo nous éclairera ce matin. Avec nous également, la médecin nutritionniste Catherine Lacrenière. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin écrivain, l'auteur du blog très fréquenté Alors Voilà, qui réconcilie les soignants et les patients. Dans votre chronique, vous nous racontez toutes les semaines une médecine à visage humain.
Exactement, le visage d'aujourd'hui est celui d'un homme croisé sur Internet et qu'il vaut mieux ne pas trop fréquenter.
Merci Baptiste, à tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
C'est la cruauté ultime de la vie. Elle vous donne le goût de la jeunesse et de la vitalité. Et ensuite, elle fait de vous le témoin de votre décrépitude.
Bah oui, c'est la loi de la nature.
On s'en fout de la loi de la nature.
Qu'est-ce que c'est?
Ce que vous êtes venu chercher. Un peu de magie. Dans ce monde obsédé par la science. Une potion.
Mais qu'est-ce qu'elle fait?
Selon vous, quel est mon âge?
Oh, 28. 3. 23.
Je viens de fêter mes 71 ans. Voilà ce qu'elle fait. Elle arrête le processus de vieillissement de plein fouet et le repousse dans ses retranchements. Buvez cette potion et vous ne vieillirez pas d'un seul jour de plus. Ne la buvez pas et vous continuerez à vous voir pourrir.
Un extrait de La mort vous va si bien de Robert Zemeckis en 1992. Et on s'intéresse ce matin au régime de la longévité du professeur Walter Longo. Bonjour Walter Longo, bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Un mot de présentation, vous avez 52 ans, vous faites moins que votre âge. Vous êtes d'origine italienne et vous dirigez l'Institut de la longévité de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Et vous participez également au programme Oncologie et longévité dans l'un des meilleurs organismes de recherche européens. Sur le cancer à Milan, et vous êtes reconnu pour vos recherches sur le jeûne thérapeutique et ses effets bénéfiques pour améliorer les traitements médicamenteux anti-cancéreux. Et vous publiez donc chez Actes Sud le régime de la longévité. Rassurez-moi, Walter Longo, ce n'est pas le énième ouvrage qui dispense des conseils nutritionnels pour vivre longtemps et qui deviendra caduque dans 2 ou 3 ans.
Non,
j'espère que non. Il faut dire que j'ai attendu 25 ans avant d'écrire ce livre et j'ai attendu d'avoir déjà mené pas mal de recherches, des études notamment sur les centenaires, des études épidémiologiques et des études cliniques également, en plus de la recherche fondamentale. Alors, évidemment, tout ce travail, nous l'avons fait nous-mêmes et je voulais que nous soyons maîtres de nos propres études, mais également nous avons appris beaucoup de choses auprès d'autres scientifiques en Europe, aux États-Unis. Donc, ce livre s'appuie sur les 5 piliers de science et de médecine pour justement s'assurer que justement, il ne sera pas caduque l'année prochaine. Évidemment, rien n'est éternel, les choses évoluent. Mais enfin, là, je pense que c'est quand même un livre de base qui ne sera pas beaucoup modifié dans les années à venir.
Alors, dans ce livre, vous nous proposez de maintenir le plus longtemps possible la jeunesse de son organisme, mais également de le réparer, de le régénérer. régénérer, voire peut-être de rajeunir nos cellules.
Oui, alors il y a une chose dont qu'on découvre dans les organismes simples, ensuite on est passé aux souris puis à l'homme, c'est ce qu'on appelle le programme de longévité. L'idée, c'est de maintenir un organisme dans un état de jeunesse. Alors, l'évolution a trouvé des façons, des programmes qui permettent à un être humain de rester jeune et en bonne santé pendant une quarantaine d'années. Mais comment passer de 40 à 50, 60, 70 ans, parce qu'à un âge où on resterait sans maladie, toujours en bonne santé. Et puis, ça c'est la première question. Ensuite, rajeunir les cellules. Si quelqu'un vieillit, est-ce que l'on peut remplacer les tissus vieux par des tissus jeunes? Enfin, on l'a vu dans l'étude sur les souris, et là encore, on trouve la même chose chez les hommes.
Walter Longo, on se doute bien que manger tous les jours une entrecôte frite avec une sauce mayonnaise accompagnée d'un demi-litre de soda ou d'une demi-bouteille de vin et d'un dessert très sucré, ça ne mène pas a priori vers une vie de centenaire en bonne santé. On le pressent ça, évidemment.
Je crois que c'est la première moitié du livre qui en parle clairement. Il faut quand même avoir des habitudes saines tous les jours. Mais la deuxième moitié du livre se rend compte que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas changer d'habitude. Ils vont manger leur entrecôte frites et compagnie. Et moi, je sais que j'aime un peu les nutritionnistes lorsque je le dis, mais c'est la vérité. Les gens ne changent pas facilement d'habitude. La grande majorité des régimes échouent au bout d'un an au moins. Et ça, c'est justement la deuxième moitié du livre qui intervient à ce niveau-là pour faire quelque chose pendant quelques jours, tous les quelques mois, quelque chose qui vous permettra, disons, de pouvoir mener une vie correcte.
Docteur Catherine Lacronière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste, l'une des expertes éclairées de notre émission. Qu'est-ce que vous répondez à Walter Longo sur ce qu'il vient de nous dire?
Je réponds que je suis tout à fait d'accord, puisque c'est ce que je croise tous les jours en consultation. Je vois des personnes qui ont souvent, depuis de très longues années, de mauvaises habitudes alimentaires et de mauvaises habitudes de vie, sédentarité par exemple, à qui je vais raconter l'histoire d'une vie nouvelle. Et ce n'est pas facile de changer tout ça puisque les choses sont bien ancrées. Donc ce que l'on fait souvent, à chaque consultation de nutrition, on essaie de donner trois directions. On dit vous allez changer trois choses dans votre vie. On fait les choses petit à petit pour changer en profondeur les habitudes. Mais c'est vrai que ça prend du temps, ça demande des efforts, mais ça en vaut tellement le coup.
Catherine Lacronière, je signale que vous venez de publier Prévenir et soigner l'inflammation. Walter Longo, vivre longtemps, d'accord, mais pas en mauvaise santé. L'idée, c'est de nous aider à vivre jusqu'à les 90, voire 100 ans, et peut-être plus, en gardant bon pied, bon œil.
Et justement, tout est là. Et c'est pourquoi il est aussi important dans notre aging. On a commencé par la génétique. La génétique, justement, de la jeunesse, ou en tout cas, de l'extension de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on commence par des organismes simples et des êtres humains. On avait suivi dans l'état de l'Équateur. Et on avait vu qu'à travers leurs régimes alimentaires, ils se protégeaient contre plein de maladies. Jamais de cancer, jamais de diabète. Et là, et pas de maladies cardiovasculaires non plus. Sur le plan cognitif, ils sont plus jeunes que les gens du même âge dans le reste du monde. Donc, vous avez des modes de vie qui font la différence. Et c'est une réalité incontestable. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que tout le monde peut faire pareil? Est-ce que tout le monde peut être jeune longtemps?
Walter Longo, l'idée que vous développez dans votre ouvrage, le régime de la longévité, c'est de retarder le vieillissement des cellules et des organes. Et c'est là qu'il est possible peut-être d'agir sur l'apparition de nombreuses maladies. L'âge, c'est le premier facteur de risque de développer les maladies les plus graves.
L'âge et le vieillissement sont le premier et de loin le premier facteur de risque de toutes les grandes maladies, quelquefois par un facteur de 100 à 1, si on mesure les facteurs de risque entre eux. Il ne s'agit pas simplement de retarder le vieillissement. Chez la souris en particulier, vous avez la même mutation que cette ethnie en Équateur. Ces souris peuvent vivre deux fois plus longtemps et sans jamais présenter les maladies évoquées. Donc il ne s'agit pas pas simplement de retarder le vieillissement, mais de vivre plus longtemps sans être malade. Caruso ou Emma Morano, qui a eu l'âge de 117 ans, je l'avais vu au Lac Maggiore en Italie, elle est morte l'année dernière, c'était la personne la plus âgée du monde, la doyenne du monde, n'avait aucune maladie. Et donc là, c'est évidemment, on ne va pas pouvoir éliminer toutes les maladies. Mais enfin, quand même, 60-80% des gens qui arrivent à la fin de leur vie sans jamais tomber gravement malade, c'est formidable.
Il existe des centaines de théories qui expliquent les théories du vieillissement. La plupart des théories ne vous satisfont pas, car elles sont centrées sur le processus de vieillissement et non sur la capacité des organismes à rester jeunes.
Mais voilà, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mes collègues. De l'école de gérontologie, j'ai dit, peu m'importe le vieillissement. Ce qui m'intéresse, au contraire, c'est la jeunesse ou le fait de rester jeune. Et donc, ce sont les programmes qui permettent de réjuvener les cellules et voir comment l'évolution, d'ailleurs, a trouvé des moyens extrêmement complexes et sophistiqués de maintenir la jeunesse. Par exemple, la levure peut survivre 10 fois plus longtemps grâce à certaines mutations génétiques. Bon, vous avez des gens qui vivent, ou des souris qui peuvent vivre 10 fois plus longtemps et qui se reproduisent 10 fois plus aussi.
Docteur Catherine Lacronière.
Oui, c'est vrai que le vieillissement est en rapport avec les facteurs de risque. Si on prend par exemple l'exemple du diabète et de l'insuline, plus vous vieillissez, plus vous avez de risque de développer ce qu'on appelle une insulinorésistance, qui est le prémisse du diabète. Donc, c'est difficile de faire le lien, enfin de bien séparer vieillir d'un côté et les pathologies de l'autre. Ce sont deux choses qui sont complètement intriquées également avec l'alimentation, puisque vous allez également avoir plus de risque d'être diabétique si vous mangez trop de sucre tout au long de votre vie. Donc c'est important d'essayer de toute manière de changer les choses et de les changer le plus tôt possible pour pouvoir avoir une chance de limiter un certain nombre de risques de santé.
Walter Longo.
Oui, tout à fait.
Si vous commencez tôt, et d'ailleurs, si vous faites des expériences sur l'animal, chez un animal jeune, justement, disons l'équivalent d'un homme de 20 ans, ben, vous aurez des effets plus probants. Plus tard, ça marche aussi, mais moins. Mais même en commençant tard, il y a quand même des effets constatés. Par exemple, l'équivalent d'un homme de 50 ans, vous aurez peut-être la moitié des effets, mais c'est quand même des effets considérables, notamment pour la prévention des maladies. Je ne parle pas nécessairement de longévité, parce que là, ça ne sera pas pareil que si vous commenciez à 20 ans, mais pour la prévention des maladies, vous pourrez avoir un effet important, même en commençant relativement tard. Donc il ne faut pas dire aux gens, bah, c'est trop tard. Non, on peut toujours essayer.
Walter Longo, question personnelle. Hein. Pourquoi cet intérêt pour les questions liées à la longévité? Quel est votre rapport à la mort?
À l'âge de 19 ans, j'étais étudiant en musique, au Texas, l'université du Texas, et un beau jour, j'ai décidé que je m'intéresserais davantage au vieillissement, à la longévité, d'abord pour l'aspect scientifique, c'est un vrai défi à relever, je trouvais que c'était un vrai challenge tout à fait passionnant sur le plan scientifique, donc, mais également, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on ne s'intéresse pas aux vrais problèmes qui sous-tendent les maladies, à savoir le processus de vieillissement, puisque personne ne tombe gravement malade à 25 ou 30 ans, mais tout le monde tombe malade à 70 ans. Donc je me suis dit, il y a un lien avec le vieillissement, il vaut mieux étudier le vieillissement et la longévité, et c'est ça qui m'a poussé, il y aurait beaucoup d'explications médicales.
Et d'ailleurs, vous quittez Gênes pour Chicago, vous avez 16 ans, et vous découvrez un mode de vie qui vous laisse pantois, hein. Certains membres de votre famille italienne qui avaient émigré aux États-Unis souffraient de maladies que la famille restée en Italie ne développait pas. Et c'est à partir de là, si je comprends bien, que vous êtes passionné sur les liens entre les maladies chroniques et l'alimentation et la longévité.
Alors oui, il y avait une très grande différence dans les habitudes alimentaires en Ligurie ou en Calabre, en Italie, et ce qui se passait à Chicago. Ça sautait aux yeux, c'était pas du tout la même chose. Et effectivement, mes parents américains, la famille américaine développait des maladies cardiovasculaires et autres, alors qu'en Italie, personne n'avait ça. Donc effectivement, il y avait des différences qui sautaient aux yeux. quand j'étais chez le Texas, les habitudes alimentaires étaient encore pires. Le régime Tex-Mex, croyez-moi, c'est encore plus épouvantable. Et je me suis dit que moi-même, je mangeais ce genre de cuisine et il y avait un problème personnel. Je voulais quand même y voir de plus près parce qu'il y avait des conséquences à élucider. Et pour moi, ça m'a poussé à changer de régime alimentaire moi-même et étudier la question.
Dites-moi la vérité, Walter Longo, vous êtes un peu comme Dorian Gray. Vous restez jeune, je rappelle que vous avez 52 ans, alors que vous en paraissez au moins 10 de moins. Et il y a un tableau au fond d'une cave qui vieillit, un tableau de vous, qui vieillit à votre place, comme dans le portrait de Dorian Gray.
Yeah, I'm actually 87.
Oui, en fait, j'ai 87 ans, je vous ai...
Catherine Lacronière.
Oui, je voulais vous faire voyager un petit peu parce que là, on parlait d'Italie et des États-Unis, mais ailleurs dans le monde, on sait que l'alimentation a une très importante raison pour bien vieillir. À Okinawa, une petite île du Japon, pendant très longtemps, il y avait là un nombre de centenaires absolument incroyable. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, cette population mangeait d'une certaine manière des poissons riches en oméga 3, entre autres. Alors, il est sûr que plus récemment, l'île d'Okinawa a été atteinte par les fast-food comme ailleurs dans le monde et qu'il y a moins de centenaires aujourd'hui. Mais c'est prouvé. Manger fait ce que vous êtes. Et manger vous permet de vieillir mieux et peut-être de mourir plus tard.
On y reviendra tout à l'heure. Alors pour information, cette émission a été exceptionnellement enregistrée lors du passage à Paris du professeur Walter Longo. Merci au génie de la traduction Robert Wolfenstein. Vous pouvez poster toutes vos réactions sur ce qu'on se dit sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Philippine Rouvière et de Laura Laplot, à la réalisation Stéphanie Texier.
Devons parler du forfait numéro sur
combien vous fasse.
Vous proposez soupe, purée, yaourt, dessert ou compote.
Ce matin, on s'intéresse aux régimes de la longévité du professeur Walter Longo, qui dirige l'Institut de la longévité de l'Université de Caroline du Sud, un régime qui permettrait de vivre plus longtemps en bonne santé, où manger sainement pourrait peut-être régénérer nos cellules.
Vivre au vieux et en bonne santé n'est pas notre espoir à tous. Le propriétaire de ce champ de vie a 57 ans. Il est échappé au cancer et à Alzheimer, à toutes ces séances de confort. Depuis des dizaines d'années, des chercheurs tentent de décrypter les mécanismes du vieillissement et de repousser ces maladies qui surviennent avec l'âge. Et quelquefois, les voies de recherche prennent du chemin de travers. Il existe une vallée en Équateur, sillonnée par des routes à peine dessinées sur les cartes. Là, dans des villages excentrés, certaines personnes paraissent protégées du diabète, du cancer, et peut-être même à l'Alzheimer.
Un extrait du documentaire Secret de longévité de Thierry de Lestrade, diffusé il y a quelques années sur Arte. Professeur Walter Longo publie donc le régime de la longévité chez Actes Sud. Le but de cet ouvrage, c'est de nous aider, de nous donner des clés pour profiter d'une longue vie en bonne santé. Votre livre, c'est le fruit de 30 années de recherche et d'études cliniques. Et vous avez notamment étudié quelques endroits dans le monde où l'espérance de vie en bonne santé est nettement plus élevée qu'ailleurs sur la planète. Alors je pense à cette zone de Calabre, dans le sud de l'Italie, le petit village de Molocchio, et c'est là que vivait Salvatore Caruso, mort à 110 ans en 2015. Qu'est-ce qui caractérisait le mode de vie et l'alimentation de ce bon vieux Salvatore Caruso ? Et vous êtes originaire de la même région, je crois.
Alors, c'est une correspondance culturelle, parce que mes deux parents viennent du village même de Caruso. Toujours était-il. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que tout ce que mes parents faisaient avec l'élément de Caruso correspondait à ce que préconisait mes chers, les étudiants. C'est compliqué avec ça. C'est des gens qui ont des régimes à faible teneur en protéines, qui s'en sortent mieux que ceux qui vivent dans le mais après 65 ans, ceux qui ont un apport protéiné supérieur s'en sortent mieux que ceux qui en auraient moins. Donc c'est l'inverse. Donc c'est plus compliqué d'y parler. Alors, pour revenir à Caruso, donc, Lorsqu'il avait des seuls avec son épouse, il mangeait très peu de protéines, il était végétarien, un peu de poisson, mais alors, ça ressemble à ce qu'on trouvait habituellement au Japon, à Okinawa. Mais la subtilité, c'est qu'arrivé à l'âge de 80 ans, il est venu s'installer chez ses enfants et son régime alimentaire était beaucoup plus riche en protéines. Alors, ça peut être une coïncidence, mais au début, jusqu'à l'âge de 65 ans, disons, le régime alimentaire a faible de protéines et puis après beaucoup plus de protéines à l'âge de 65 ans, 75 ans, 80 ans. C'est peut-être cette combinaison qui l'a favorisé.
Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'alimentation de tous les centenaires que vous avez rencontrés à travers le monde? Une activité physique modérée, peu de stress, une vie au grand air, une alimentation saine, plutôt végétalienne. C'est ce que vous avez constaté à travers vos recherches et vos rencontres à travers le monde auprès de ces super centenaires?
J'aime aller sur le terrain, même que ce soit à Normandie ou à Okinawa ou au Japon. Je me suis souvent rendu, également en Italie. Et ce que c'est extraordinaire, dans comme un, pas tous, mais presque, à toute l'Europe, vous avez des gens qui ont une protection génétique telle qu'ils peuvent tous se permettre. Mais ça, c'est rarissime. La grande majorité des centenaires que j'ai rencontrés, c'est des gens qui ont un mode de vie presque végétalien en Sardaigne à Saulo. Vous avez des gens qui mangent de la viande peut-être une fois par semaine et encore, quelques œufs de temps en temps, et du fromage de chèvre comme un pécorino. Enfin, en général, peu de viande de poisson. Et les plantes, ils se nourrissent bien. Ils mangent beaucoup. Et alors, les gens, on voit pas tant que ça, mais partout ailleurs, si.
Docteur Catherine Lacronière.
Je voulais faire remarquer ce qui se passe dans notre société. C'est vrai qu'on mange beaucoup de protéines quand on est jeune. Alors, les gens qui aujourd'hui ont 50, 60 ans mangeaient même de la viande rouge tous les jours, voire deux fois par jour. Et puis, quand on vieillit, pour différentes raisons, parce qu'on a une dentition moins bonne, parce qu'on est seul parfois, parce qu'on a moins d'appétit, eh bien on va diminuer son apport de protéines. Donc finalement, ici, on fait pratiquement le contraire de ce qui vient d'être dit. On mange trop de protéines jeunes et on n'en mange plus assez quand on vieillit. Alors je trouve que c'est très intéressant de voir la relation avec la survenue des pathologies.
Professeur Walter Longo.
Yes, absolutely.
Mais oui, vous mettez le doigt sur le problème. Vous avez des personnes âgées qui mangent moins de protéines quand elles sont âgées, et quand ils sont jeunes, ils en prennent plein. Et même jusqu'à l'âge de 60 ans, quelquefois, plein de protéines, plein de viande. Et c'est probablement ça qui croit. Ça ne veut pas dire que les personnes âgées doivent se gaver de viande, mais trouver un juste équilibre et avoir une régime alimentaire plus équilibré, avec davantage d'apport protéique.
Bonjour Linda.
Oui, bonjour.
Alors vous habitez Paris, vous avez peut-être une question à Walter Longo.
Oui, tout à fait. Je pratique le jeûne abandonné depuis 5-6 ans, à raison d'une semaine par an. J'ai 60 ans. C'est une histoire familiale. Ma mère m'a fait découvrir cette pratique. Elle a 80 ans. Et elle le fait depuis une dizaine d'années. C'est une histoire avec mes frères et sœurs, les conjoints. Et je voudrais savoir si cette pratique une fois par an, en dehors du plaisir qu'elle procure, est-ce qu'elle elle aurait un effet sur la longévité?
Très bonne question, Linda. Walter Longo.
Ah oui, tout à fait. Alors, le seul problème, c'est qu'il faut, il faut pas prendre, disons, se créer sa propre médecine. Votre mère vous-même, vous en sortez peut-être très bien et tant mieux. Mais quand vous adressez au grand public, il faut quand même faire attention. On ne peut pas faire des préconisations trop générales. On a fait l'erreur en Italie lorsque l'on a publié le livre. Les médecins hospitaliers se sont plein de voir que bon, les gens prenaient au pied de la lettre des conseils un petit peu trop généralisés. Il faut quand même se placer a priori dans un contexte supervisé. Il y a des cliniques en France, en Allemagne, en Suisse, où ces types de régimes de jeûne sont quand même assez bien encadrés, testés. C'est vrai qu'on veut que tout soit accessible à tout le monde, gratuit. Je crois qu'il faut quand même être un peu plus prudent, peut-être dépenser une centaine d'euros par an, mais faire ça correctement.
Walter Longo, quels sont les grands principes de ce régime de la longévité, et donc le fruit d'une trentaine d'années de recherche et de rencontres auprès de centenaires à travers le monde, de centenaires en bonne santé? Quels sont les grands principes généraux que l'on peut appliquer à une population en bonne santé?
Alors, disons qu'il y a plusieurs choses. Comme je viens de le dire, quand même, le régime quotidien, un régime pesco, végétalien, etc. Un peu de poisson, pas trop de protéines, pas de viande en préférence, essentiellement des légumes, et des légumes secs aussi. Et puis, ce que je recommande également, c'est deux repas par jour, plus peut-être un engras si vous êtes en surpoids. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de manger cinq fois par jour. Alors, bon, ça pourrait le faire, mais à mon avis, ça n'est pas une très bonne idée. Et d'ailleurs, je connais pas mal de nutritionnistes qui, pourtant, prescrivent 5 mini-repas. Mais en fait, c'est comme ça que pas mal de gens se sont retrouvés obèses, une véritable épidémie. Donc, si vous êtes en surpoids, deux repas par jour, peut-être un encas, c'est tout. Et ça fonctionne assez bien. Et alors, pour mon régime FMD, qui imite donc, le jeûne, alors, pour des gens qui sont obèses ou détruits de cholestérol, alors, peut-être cinq fois par an, à condition de tout bien faire, c'est-à-dire un peu d'exercice, ou même seulement deux fois par an si vous êtes en bonne santé.
Le regard du docteur Catherine Lacronière sur ce régime qui est grosso modo un régime pesco-végétarien, donc à base de légumes, de légumineuses, de protéines végétales, pois chiches, lentilles, etc., de poissons, une à deux fois par semaine, de fruits, avec par exemple 12 heures maximum entre le premier et le deuxième repas. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que nutritionniste?
Voilà, je voulais déjà poser une question.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, ce que j'en pense que, bon, de toute manière, on sait qu'aujourd'hui, dans notre société, on mange moins de viande, en particulier de viande rouge, et on se tourne plutôt vers des protéines d'autres origines. On rappelle que manger des protéines, c'est obligatoire, parce que notre corps ne sait pas les fabriquer. Donc il faut qu'on récupère les acides aminés qui permettent de fabriquer des protéines dans les poissons, mais également dans nos sources végétales, dans les légumineuses comme la lentille, par exemple.
Le pois chiche,
voilà. Donc là, c'est une alimentation qui permet d'avoir ces acides aminés. Je voulais revenir sur les acides gras. Le gras est essentiel à la vie. Il y a eu au cours des décennies précédentes de très nombreux régimes qui disaient d'arrêter complètement le gras. Aujourd'hui, on revient vers une alimentation où on libéralise complètement le gras. Je voulais savoir avec le professeur Longo quelle était la place du gras dans son alimentation.
Walter Longo.
Alors pour moi, les acides gras représentent 30% du régime, mais là, c'est en s'appuyant sur 30% de l'apport calorique vient du gras et des acides gras, mais ça vient surtout d'huile d'olive, de poisson, de noix, d'amande. Pratiquement pas d'association négative à ce type de gras. Mais maintenant, lorsque vous passez à des teneurs supérieures, là, on approche des régimes qui sont moins connus. Mais à Okinawa, les Japonais mangeaient très peu de gras, mais en Grèce, en Crète, au sud de l'Italie, au Costa Rica, même en Normandie, il y a des fortes teneurs en Grèce dans les apports alimentaires. Donc, je crois qu'il faut surtout que les glucides restent au maximum 50%, 10% de protéines et 20-30% de gras. Et ça, cette équilibre est à peu près juste sur la part vue d'effets secondaires négatifs.
Est-ce que vous pouvez donner peut-être pour ceux qui nous écoutent un exemple d'une assiette entre guillemets idéale, si on la reproduit dans le temps, hein, évidemment, une assiette idéale ou deux repas qui vous paraissent nous mener vers la longévité si on le suit évidemment à long terme?
So maybe I'll give it for nos amis du sud. Je dis dans le livre qu'il faut manger à la table de vos ancêtres. Donc pensez aux origines de vos parents, de vos grands-parents, de vos grands-parents, et pensez aux éléments qui étaient courants, ce qu'ils trouvaient eux sur leur table ou dans leur assiette. Dans le sud de la France ou le sud de l'Italie, du riz, qu'est-ce qu'on trouve dans l'assiette? Alors, par exemple,
de la morue
avec beaucoup de légumes, en accompagnement des fèves. Bon, ça, c'est un plat très connu de Ligurie, c'est la morue avec des fèves. Ça, c'est formidable. Dans un autre plat du sud de l'Italie, la chamaïelena. Alors, il y a 50 grammes de pâte. Très peu de pâte. Et beaucoup, par contre, beaucoup de haricots verts, et beaucoup d'autres légumes. Et donc, du coup, c'est ça, votre plat qui devient assez copieux. Mais très, très peu de calories qui viennent de l'amidon.
Walter Longo, une chose très, très importante. Pourquoi manger trop de sucre simple et de protéines animales accélère le vieillissement? Quel est le processus? Pourquoi c'est si important de limiter? Expliquez-nous simplement.
J'ai organisé une conférence il y a quelques années. Il y a trois gènes qui accélèrent le vieillissement. Le LIGF1 qui lie à la croissance, le TOR et le PKR. Alors, il y a deux qui ont été découverts dans mon laboratoire. Mais les protéines facilitent le développement du TOR et du LIGF1 et le PKR est favorisé par les sucres. Donc, c'est beaucoup de sucre, beaucoup de protéines. Là, vous allez activer ces gènes qui eux-mêmes accélèrent le vieillissement. Alors, le sucre provoque la libération d'insuline et donc l'accumulation de graisse et combiné, l'accumulation de graisse et l'accélération du processus de vieillissement conduit à ces problèmes. Dans un cas, vous accélérez le vieillissement, dans d'autres cas, vous créez des dépôts de glycérol et de graisse qui provoquent le diabète, les maladies cardiovasculaires et même le cancer.
Donc, si je vous comprends bien, la restriction calorique permet de diminuer l'activité du récepteur de l'hormone de croissance et la restriction calorique qui comprend évidemment une baisse de la consommation de protéines animales et de sucre. Je vous ai bien compris.
Pas nécessairement les calories. Hein. J'ai dit dans mon livre, je parle de manger suffisamment. C'est-à-dire qu'il faut réduire les sucres et les protéines, mais comme avoir quand même des glucides, du pain, des pâtes, mais pas trop.
Très important de dire qu'il y a sucre et sucre. Le docteur Longo disait de réduire les sucres simples, mais il faut garder des sucres provenant de légumineuses, qui sont des glucides qui vont être absorbés beaucoup plus doucement, qui ont ce qu'on appelle un faible index glycémique. Il ne faut pas se priver de tous ces sucres, comme il faut faire la différence entre les graisses. Il y a augmenter toutes les graisses, ce n'est pas la solution, parce qu'il y a les gras saturés qui viennent de la charcuterie ou autre, qui est en rapport avec les pathologies cardiovasculaires, alors que des gras d'origine végétale ou de poisson vont, quant à eux, favoriser la prévention cardiovasculaire.
Oui, voilà. Il y a la grande distinction entre les sucres et les glucides. Les gens ne se rendent même pas compte que les légumineuses, justement, ont une teneur en glucides. Mais vous avez mille fois raison. À 60% des calories doivent venir des glucides, essentiellement de légumes, de légumes secs et même du poisson, effectivement.
Allez, on continue à explorer ce régime de la longévité du professeur Walter Longo. En attendant, il est l'heure de retrouver la chronique. Alors voilà.
Frédéric a réussi à m'offrir la jeunesse éternelle. Pauvre de vous.
Un extrait de la série Murdoch, et on s'intéresse ce matin au régime de la longévité du professeur Walter Longo, qui dirige l'Institut de la longévité de l'Université de Californie du Sud. Walter Longo, vous rêvez parfois, dans le secret de votre laboratoire, de découvrir un élixir de jeunesse?
C'était peut-être mon rêve quand j'avais 20 ans. Alors, et puis, ce qui est intéressant, c'est que mon mentor, Ryan Walther, qui lui a dit que c'était très connu, il m'a jamais dit, il m'a dit que c'était mon mentor. Il m'a dit qu'il se proposait d'être cryogéné pour qu'un jour il puisse revenir et vivre éternellement. Mais on m'a dit que lorsqu'il a vieilli, il a décidé de ne pas se faire cryogéner, justement, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun intérêt à vivre éternellement. Donc, pour moi, c'est un peu pareil. Je me suis rendu compte que ce serait bien de vivre une vie saine jusqu'à 110 ans, mais l'immortalité en soi, ça n'est pas pour nous.
Walter Longo, la saison dernière, dans Grand Bien vous fasse, nous recevions un chercheur britannique, Tim Spector, et je lui faisais remarquer que c'est parfois une guerre de tranchées entre professionnels de de la nutrition et qu'il était difficile de s'y retrouver dans certains messages nutritionnels parfois contradictoires. En quoi votre ouvrage, Le régime de la longévité, est différent? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui doivent peut-être se dire oui, mais bon, comment s'y retrouver?
Vous avez raison de mettre le doigt sur le problème. Moi, je pense à Boeing et à Airbus, constructeurs d'avions. Il y a mille façons de faire des avions, mais vous n'avez que deux constructeurs qui ont construit des avions qui ne s'écrasent pas. C'est un peu la même chose pour la longévité et la nutrition. Vous avez des centres, des lieux qui ont passé des années, des dizaines d'années à faire de la recherche, qui ont des protocoles basés sur des publications, des études très profondes. Il faut comparer les études justement entre elles. Alors, d'abord, écouter une personne qui soit fiable, et deuxièmement, vous allez penser, c'est ce que je dis dans mon livre, il y a cinq piliers. Il faut que ce que vous dites soit basé non pas sur des opinions, mais sur des disciplines scientifiques, l'épistémologie, les études cliniques, tous ces facteurs doivent être voisins. Mais non, quoi, vous trouvez quelqu'un qui est fiable, mais qui est aussi à une certaine réputation. Si moi je me trompe et je vous dis qu'un régime à forte teneur protéique est une mauvaise chose et que j'ai dit scientifiques qui disent le contraire, j'ai un problème. Donc il faut avoir des gens qui puissent rendre compte de ce qu'ils disent.
Alors en ce premier jour de vacances de la Toussaint, il y a peut-être des auditeurs qui se lèvent tard et qui nous prennent en route. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être les grands principes de ce régime de la longévité que vous préconisez pour un homme ou une femme en bonne santé? Les grands principes?
Les grands principes, ce seraient les suivants. D'abord, si vous voulez savoir comment ça marche en quelque sorte, les principes de fonctionnement, surtout pour le régime qui imite le jeûne. D'abord, première chose, premier grand principe, je fais l'analogie avec une locomotive qui se sert de bois dans sa chaudière. Il n'y a plus de bois, et alors le conducteur de la locomotive prend les vieux sièges dans les wagons et s'en sert comme combustible dans la chaudière de la locomotive. Le train devient donc plus léger, arrive jusqu'à la station suivante, et là on reconstruit le train avec des nouveaux bois pour les nouveaux sièges. Voilà. C'est un petit peu ça. On élimine les mauvaises cellules, et au moment de reconstituer ces cellules, on met des cellules de qualité à leur place. Et dans mon étude, on peut détruire le pancréas d'une souris, par exemple, et avec le régime qui imite le jeûne, et bien ce pancréas se régénère, même s'il n'y avait pas d'insuline avant. Et on peut corriger le diabète, etc. Donc ça, c'est une propriété fondamentale de ce régime.
En quoi consiste, en quelques mots, ce régime qui imite les effets du jeûne? Il faut le faire quoi? 2 à 3 fois par an, pendant 4-5 jours? Expliquez-nous un peu le mode d'emploi de ce régime qui imite les effets du jeûne.
Alors, celui qui a fait l'objet d'études cliniques, on réduit le cholestérol, les triglycérides, certaines protéines d'origine animale qui sont des facteurs de risque. Là, c'est des régimes qui durent 5 jours, 1100 calories par jour pendant ces 5 jours, à faible teneur en sucre, faible teneur en protéines, forte teneur en graisse saine, donc noix, huile d'olive. Voilà, ça c'est en gros ce qu'on trouverait pendant ce régime. Et là, on peut, selon son état de santé, si on est en bonne santé, on peut intervenir à un nutritionniste, on peut le faire pas trop souvent. Si on est malade, bon, là, il faut qu'un médecin supervise la chose et décide de la fréquence ou même de la faisabilité de la chose.
Pour terminer, Walter Longo, ce régime de la longévité n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. C'est un régime de renoncement. Est-il facile à suivre sur le long terme? À titre personnel, me passer de poulet rôti ou de fromage de chèvre, ça me paraît assez difficile. C'est un régime de renoncement, Walter Longo?
Encore une fois, ces régimes sont destinés à des personnes qui sont disposées à renoncer à certaines choses, à changer de régime, à arrêter de fumer, ça va vraiment faire une différence. Mais les gens qui disent, peu m'importe ce que vous dites, moi je vais continuer à manger du fromage, alors c'est là que le régime FMD peut être efficace. Pourquoi? 3 fois par an, par exemple, et là, on peut faire une différence. ça c'est vraiment prouvé scientifiquement. Vous avez 50 000 personnes qui ont suivi ce régime FMD, on va bientôt publier les résultats de notre étude, et ça on n'annonce pas grand chose. Le corps apprend à se guérir lui-même. Mais sinon, c'est quoi l'alternative? C'est des médicaments. Quelqu'un qui a 50 ou 60 ans va prendre 5 médicaments par jour, avoir du maladie chronique jusqu'à la fin de sa vie. On veut fumer, avoir un mauvais régime alimentaire, bon, bah, ce sera ça la contrepartie.
Le FMD, je le rappelle, c'est le régime qui imite les effets du jeûne thérapeutique. Merci beaucoup, Walter Longo, d'être venu à Paris. Le régime de la longévité est publié chez Actes Sud. Merci beaucoup, docteur Catherine Lacournière, d'être venue. Je rappelle la publication de notre ouvrage, Prévenir et soigner l'inflammation. Baptiste Beaulieu, merci, vous êtes à Bordeaux, là, et merci aux équipes de France Bleu Bordeaux d'avoir assuré votre chronique ce matin. À la technique ce matin, il y avait le valeureux Henri Bérec. À suivre, Nagui et sa bande originale. Merci à la traduction de Robert Wolfenstein.